À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non.
Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science, friction. Science Fiction, une émission d'Alain Vattier, de Jean Ibanez sur Divergence FM. Bonsoir à vous tous, bonsoir Alain, bonsoir Grégory.
Bonsoir.
Donc ce soir, on se retrouve donc pour toujours la science-fiction avec Alain Vattier et notre invité, Grégory Chanas. Donc on va te demander, Grégory, de te présenter avant de présenter l'ouvrage que tu as choisi pour nos deux émissions là, à venir. Qui es-tu, Grégory Chanas?
Alors, je suis enseignant en biologie en lycée à Montpellier et je suis passionné par la science-fiction depuis maintenant plusieurs années. Et j'ai grandi avec et je prends toujours plaisir à découvrir des nouveaux livres et à relire des classiques.
Tu es professeur de SVT.
SVT.
SVT. D'accord. Alors, Alain, un de nos auditeurs m'a dit qu'il ne savait pas qui tu étais, donc il faut que tu te représentes. Qui es-tu, Alain?
Moi, je suis...
Alain Vattier.
Oui, c'est ça, Alain Vattier. Moi, je suis libraire spécialisé en bande dessinée. Voilà. J'en lis depuis toujours. Hein. Je crois que j'ai quasiment appris à lire avec la bande dessinée. Il y en a toujours eu. Et voilà, j'ai même participé à des revues, notamment à l'Indispensable, ce genre de choses. J'ai fait une émission ici, sur la bande dessinée aussi, il y a trois ans, là, qui s'appelait Par la bande. Voilà, donc,
Et on a fait ensemble une émission aussi...
sur le polar.
Sur le polar pendant un an. Hein.
Oui, tout à fait.
Hein. Alors, tu oublies de dire aussi que tu es diplômé de l'école d'architecture de Montpellier.
J'ai un diplôme d'architecture, oui.
Voilà.
Mais je n'ai jamais vraiment exercé.
Ouais. Non, mais quand même, tu as fait ces études et tu as fait aussi un bac scientifique.
J'ai fait un bac E, oui, maths et technique.
C'est, d'accord.
Ouais, plutôt.
D'accord, parce que bon, faut quand même le préciser, c'est important par rapport à la science-fiction, c'est que Alain et Grégory sont tous les deux des scientifiques et c'est moi l'intrus là, dans cette histoire-là.
Le littéraire,
celui qui comprend rien à tout ce qui est scientifique, mais quand même qui est assez fasciné. Pour les présentations. Alors, Grégory, tu as choisi pour de présenter ce soir un roman d'un auteur chinois. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si on prononce bien. Hein, ça va être un peu la question par rapport aux deux émissions là, à venir, de savoir si on prononce bien les noms chinois.
Mais sûrement pas, mais ce n'est pas grave.
Bon. En tout cas, cet auteur s'appelle... pardonnez-moi... Liu Xijin. Voilà. Ah bah d'accord. Bah on va laisser Grégory prononcer. Hein. C'est le problème à trois corps.
Je le prononce comme ça.
D'accord. Très bien. Et donc c'est en fait c'est le premier tome d'une trilogie.
Mmh. Et c'est pas son premier livre à lui quand même.
Ouais. Alors c'était quoi son premier livre?
Son premier livre, il me semble que c'était La Foudre en boule, qui vient juste de sortir en France d'ailleurs en édition traduite.
D'accord.
J'avais lu que c'était un truc de cyberpunk, le premier roman qu'il avait écrit.
Le premier?
Ouais, mais après...
En tout cas, c'est un qui est sorti en France, là, qui est antérieur à...
Qui est antérieur à celui-ci, ouais. La Foudre en boule, je l'ai vu, ouais, il est sorti, effectivement.
Après, c'est possible, il a quand même déjà quelques
ouvrages à son actif,
derrière,
ouais.
Parce qu'il n'est pas tout jeune. Mm. Et ça fait quand même déjà plus de 10 ans qu'il écrit ça, qui est intéressant aussi. C'est que le livre est connu en France depuis peu, alors qu'il est justement sorti en 2006 en Chine.
Le problème à trois corps, tu dis.
Le problème à trois corps.
Voilà, d'accord. Alors, c'est le premier tome d'une trilogie. Nous, on va se concentrer sur celui-là, parce que déjà, c'est assez considérable en soi. Mais il y a deux autres tomes.
On peut citer, effectivement, le tome 2, qui est La Forêt sombre, et le tome 3, qui est La mort immortelle, qui sont sortis en France en 2015, 2016 et 2017.
D'accord. Donc, c'est considéré aujourd'hui comme le grand livre de science-fiction. Tout le monde parle de cet ouvrage. Hein. Vous entrez dans une librairie, le problème à trois corps, tout de suite.
Elle a eu le prix Hugo, hein, ce qui est un prix prestigieux aussi. Hein.
Ouais. Alors, quand même, on pourrait peut-être présenter quand même l'auteur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Liu... Comment tu prononces, Grégory?
Liu Cixin.
Voilà, merci.
Il est ingénieur de formation, ingénieur en matériaux. Après, je n'ai pas beaucoup plus d'infos sur lui, mais je sais qu'il s'est mis très vite, assez vite à l'écriture. Il est né en 63.
Ouais, 63. C'est une bonne année. Non, je dis ça parce que moi aussi, je suis né en 63, mais bon, passons. Ah. Oui, on t'écoute.
Et il a commencé à écrire donc, vers l'âge de 35-40 ans,
d'accord,
je pense, pour ses premiers livres. Et depuis, là, il n'a pas arrêté. Il devient, enfin, en Chine, c'est l'auteur reconnu de science-fiction en Chine. Il a gagné un prix chinois qui s'appelle le Galaxy Award, alors qu'il y a un prix chinois, mais qu'il a gagné déjà de nombreuses fois pour ses livres. Le prix Hugo, qui est plutôt dans le monde anglo-saxon, occidental, français, qu'il a gagné en 2015. Donc toujours pour le problème à trois corps, hein, qu'on rappelle, est sorti en 2006 en Chine. Donc il y a quand même eu 9 ans avant que la traduction dans une langue occidentale nous arrive. Et qui gagne ce prix. Donc ça montre à quel point il est en train de prendre de l'importance dans le monde de la science-fiction, à la fois en Chine et puis sur notre vieille planète.
Il est de quelle formation, en fait? Quelle formation il a, cet homme?
Il est ingénieur en matériaux. Et ça va se sentir un petit peu dans ses livres aussi, parce qu'il y a toujours un ingénieur en matériaux qui...
Ben, notamment un des personnages principaux là, du problème à trois
le
corps.
Le personnage principal,
c'est Wang Miao, qui est ingénieur en nanomatériaux.
Nanomatériaux. Mais c'est ça.
D'accord. Donc quand même un jeune auteur, hein, il n'a pas, voilà, il a pas 80 ans. Hein, il a,
quel âge? Il a ton âge.
56 ans.
Ouais, quasi.
C'est un jeune auteur.
Oui, il est jeune.
Ouais, parce qu'il a quand même écrit des ouvrages qui ont une notoriété internationale, qui ont été traduits dans plein de langues. Et en effet... Il a, comment on pourrait dire, une aura, il y a une aura autour de lui qui est assez étonnante et qui est, en effet, quand on lit, tout à fait méritée. Alors, qu'est-ce que nous raconte, et là ça va être compliqué, hein, mais qu'est-ce que nous raconte en fait Liu Cixin dans Le problème à trois corps? C'est quoi le récit, les grandes lignes du récit? Est-ce que c'est possible de raconter ça, les grandes lignes du récit?
Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça se structure autour d'un problème mathématique qui existe, hein, qui est vraiment réel, qui est celui de trois corps de semblables ou assez proches de masse importante. Si on veut déterminer les trajectoires à partir de conditions initiales, les trajectoires de ces trois corps, ça devient très aléatoire. On n'arrive pas à déterminer quelles vont être effectivement les trajectoires de ces corps. Ce sont des corps qui sont très sensibles aux conditions initiales. C'est le problème essentiel.
Je crois que pour préciser, c'est même plutôt la trajectoire d'une planète autour de trois soleils. Comment elle pourrait graviter autour de ces trois soleils? Et donc, il y a effectivement cette notion de chaos.
De chaos, oui. Hein,
c'est quasiment imprévisible. En fait, c'est rapidement chaotique.
Oui, parce que tout le problème consiste...
C'est
de prévoir la trajectoire de la planète pour savoir...
Le chaos de cette trajectoire.
Pour prévoir les périodes chaotiques et les périodes...
Autour de trois soleils.
Autour de trois soleils, oui.
Donc, en effet, alors ça, c'est extrêmement important de savoir ça, parce que dans, en effet...
Parce qu'avec un soleil, on peut prédire, avec deux soleils, on sait prédire, mais avec trois, on ne sait plus.
Oui, et du coup, il y a aussi, à l'intérieur du roman, on sait qu'il y a l'histoire dans le jeu vidéo, une étoile filante, deux étoiles volantes, pardon, et trois. Vous vous rappelez pas de ça?
Oui, mais c'est ce sont les soleils.
Voilà, c'est ça.
Mais là, dans ce cas, il faut revenir sur les différentes couches qu'il y a dans ce livre.
Voilà, en effet. Donc... faut pas se perdre parce que c'est un livre assez complexe et où il y a plusieurs histoires qui convergent, mais qui sont, comment on peut dire, dans des univers un peu à la fois parallèles, mais en même temps qui se recoupent. Alors, il y a une première histoire, mm-hmm. Ça serait, comment on pourrait l'appeler ? Parce qu'il y a une enquête policière, mais...
Bah, ça commence avec l'histoire de Ye Wanji, surtout. On commence avec la révolution culturelle, la mort de son père.
On est dans les années 60.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est la fin des années 60, je crois même.
67.
Et en fait, Ye Wanji, c'est la fille de ce professeur qui sera tué au cours de la révolution culturelle parce que soutenant une science bourgeoise et réactionnaire, en l'occurrence la physique quantique et l'astrophysique. Ye Wanji va se retrouver à aller couper du bois dans une espèce de colline dans le nord du pays. Et elle va être enrôlée finalement dans une base où ils mènent des expériences, on ne sait pas trop quoi au début, des expériences secrètes. Ultra secrètes, parce que cette base est très, très bien protégée. Et elle va gravir petit à petit d'ailleurs les échelons. Parce qu'au début, elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait là, et petit à petit, elle va découvrir quels sont les véritables objectifs de cette base, de ce radiotélescope, en fait, sur cette colline perdue quelque part dans le nord de la Chine.
Alors, c'est vraiment la
première intrigue. Quoi.
Voilà, premier fil.
Est-ce qu'on peut rajouter que ça reste secret si on lit pas le quatrième de couverture de l'édition originale, quand même?
Ah, du grand volume.
Oui, donc il est conseillé à nos auditeurs de ne pas lire le quatrième de couverture du volume
original.
Hein, parce qu'il faut savoir que le livre est sorti en poche. Mais le quatrième de couverture du livre original est un peu trop explicite, donc, mais on va quelque peu nous aussi spoiler l'histoire. Alors, il y a ce premier fil conducteur, il y a un deuxième fil.
Oui, mais c'est autour de ce fil que tout va s'agréger finalement.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs aussi qui fait que c'est, l'histoire va être très attachante. Mm-hmm. Parce que c'est ce personnage de Ye Wanji qui est particulièrement attachant. Hein. Alors, il y a le personnage principal qu'on va suivre et auquel sûrement on s'identifie. Mais c'est vrai que le personnage de Ye Wanji, dès le départ, on est en empathie. Enfin, en tout cas, moi, je suis entré en empathie avec elle. Parce que on comprend, voilà, on va l'histoire, ce qu'elle a vécu,
ouais.
Voilà, ses motivations et ce qu'elle a vécu. Elle va voir sous ses yeux son père qui va être tué par
les gardes rouges,
par les gardes rouges. Et par des adolescents, oui, hein,
des collégiens, des lycéens,
oui, voilà, ouais. Qui ne connaissent rien à la science et qui au nom de soi-disant la révolution assassine un homme qui ne dit que des choses raisonnables et rationnelles. Hein, donc, c'est...
Ouais, mais qui sont jugés antidialectiques.
Voilà, qui sont jugés antidialectiques et contre-révolutionnaires.
Hein. Tout à fait.
Donc, voilà. C'est une description intéressante de cette époque, hein, aussi, à ce moment-là. On décrit les procès qu'il y a contre les scientifiques, comment son père va mourir, cette espèce de bêtise à s'acharner contre la science.
À l'époque culturelle, la révolution culturelle, c'était pas simplement la science, c'était le savoir en général.
Oui.
C'est tout le savoir universitaire qui était attaqué.
Oui, il y a une volonté de contrôle. Il est évident que...
Fallait que tout passe sur les fourches codines du matérialisme dialectique.
Ah oui, c'est ça. C'est des critiques contre la mécanique quantique parce que c'est pas communiste et que c'est capitaliste.
Tout à fait.
D'ailleurs, il traite Einstein de scientifique bourgeois ou un truc comme ça, là, à un moment, au début de l'histoire.
Oui, non, c'est assez terrible parce qu'en effet, on a quand même l'impression que Liu Cixin règle ses comptes là, avec cette révolution culturelle. Mmh. Et aussi avec tout ce que ça peut représenter, c'est-à-dire le système totalitaire qui est mis en place.
D'ailleurs, l'arrestation, la condamnation de son père, etc., sont dues à la jeune sœur de Ye Wanji. Ça fait beaucoup penser à 1984, où ce sont les enfants qui dénoncent leurs parents. Et là, c'est exactement pareil. C'est même la jeune sœur qui va écrire les actes d'accusation de son père. C'est quand même hallucinant, quoi.
Alors, il y a cette histoire donc de Ye Wanji, et ensuite il y a celui qui va devenir enquêteur, mais qui est ingénieur en nanotechnologie, en matériaux, qui l'on va suivre à travers le roman Wang Miao.
Wang Miao, hein, ouais.
Alors, c'est quoi son histoire à lui ?
Ben là, on arrive à l'époque actuelle. Alors, l'époque actuelle dans le livre, c'est 2007. Et donc, on suit ce Wang Miao qui va être contacté par un policier. Aussi, un personnage extrêmement intéressant qui reviendra beaucoup, Shi Qiang.
Shi Qiang. Mm.
Et ce policier va contacter cet ingénieur pour lui demander d'enquêter sur, de l'aider à enquêter sur des suicides scientifiques qu'il y a de par le monde. Alors on est au tout début de l'histoire. Hein. Et donc il y a ces suicides mystérieux de très nombreux scientifiques partout sur Terre. Et ce policier essaye de comprendre, de mettre ça en relation, en particulier avec une association.
La Société des Frontières de la Science.
Et donc, Société des Frontières de la Science, il va demander à Wang Miao d'intégrer discrètement cette société pour enquêter sur elle et voir si elle ne serait pas derrière ces suicides, tout en ne sachant pas vraiment qu'est-ce qui pourrait inciter autant de scientifiques à se suicider. Et là...
Alors, on se retrouve à Alain donc, pour notre émission Science Friction sur Divergence FM. On était en train d'écouter quoi, Alain ? C'est toi qui as choisi la musique ?
Ouais, c'est un morceau de Pascal Comelade qui s'appelle Un ennemi du peuple. Ça me semblait de circonstance, vu que le roman commence au moment de la révolution culturelle.
Ouais. Et que ça commence sur un procès et...
Ouais, tout à fait. Un procès et une exécution.
Et l'exécution donc,
d'un ennemi du peuple.
D'un ennemi du peuple qui simplement a eu le malheur d'être scientifique mais pas dialectique.
C'est ça.
Hein? Alors, Grégory, tu parlais de Wang Miao. Et on était en train d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe avec lui et comment il en arrive à enquêter. Wang Miao, donc, il est amené à enquêter alors que c'est un scientifique. Hein?
Alors lui, on va lui demander d'intégrer cette société.
Ouais, les frontières de la science.
Les frontières de la science.
Et là, il va rentrer en contact avec un jeu vidéo qui est proposé par les adeptes de cette société des frontières de la science, qui s'appelle le jeu des trois corps. Et donc, ça demande d'intégrer une combinaison pour pouvoir rentrer dans...
Combinaison haptique.
C'est ça, pour rentrer dans une espèce de réalité virtuelle dans laquelle le joueur rentre. Et ce jeu, finalement, va être un médium pour intégrer un petit peu une culture différente, une société qui vit sur une planète où il y a des soleils.
Ce qu'il y a surtout, c'est qu'au début, on comprend qu'il y a deux airs. Il y a des airs chaotiques où on n'arrive pas à prévoir quand le jeu va se lever, s'il va faire nuit. C'est complètement aléatoire, quoi, le déplacement de la planète. Et des airs stables, ils disent pas stables, mais bon, c'est ça, quoi, des airs régulières. Des airs régulières. Où là, le soleil se lève tous les jours, se couche, etc.
À la même heure.
Donc. Voilà.
Et lui, en tant que personnage, il va suivre des scientifiques de différentes époques. Alors ça va aller de l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Il va les suivre et chacun va essayer de présenter à une espèce d'empereur ou un chef de cette planète comment prédire les mouvements de ces soleils et donc de prédire ces aires chaotiques ou régulières. Et petit à petit, on commence à intégrer des éléments d'une culture. On comprend qu'on n'est pas sur la Terre parce qu'il y a donc ces grandes périodes chaotiques qu'on n'a pas. On comprend qu'on n'est pas sur la Terre parce que ces populations qui vivent sur cette planète ont la capacité de se déshydrater dans les airs chaotiques, à se réhydrater dans les airs régulières. Pourtant, les personnages utilisés sont des humains connus de différentes époques, des scientifiques chinois de l'Antiquité ou des scientifiques européens, beaucoup de scientifiques européens à ce moment-là d'ailleurs, de l'époque plus moderne. Donc ça va passer par Galilée ou Aristote pour l'Antiquité quand même. Galilée, Copernic, Newton évidemment, jusqu'à Einstein. Quelques scientifiques chinois de l'Antiquité dont j'ai pas retenu les prénoms.
Miso, je crois.
Mais il y a des bas de page qui sont très utiles à ce moment-là.
qui explique quoi. Qui explique aussi la culture chinoise, etc.
Le contexte.
Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'il intègre vraiment la culture chinoise et européenne à ce moment-là. Et l'empereur, quand il va parler, il va dire que lui, dans sa culture, ils ont développé ça, mais il va parler de cette Europe imaginaire dans lequel eux sont allés encore plus loin, et donc on sent qu'il y a des compétitions entre différentes régions sur cette planète.
Alors ce qui est important quand même par rapport à nos auditeurs qui peuvent être des lecteurs donc des livres de Liu Cixin, c'est que en fait ce jeu de rôle, ce jeu vidéo en quelque sorte, est proposé donc à Wang Miao, mais en fait, il va le découvrir, l'amener à découvrir par lui-même ce jeu, à se procurer lui-même une combinaison spéciale pour pouvoir jouer, parce que en fait, et tout d'un coup, il découvre qu'il y a une scientifique qui est très sérieuse, très rationnelle, qui n'est pas du tout infantile, et qui il voit que la porte est ouverte et qu'elle est en train de jouer à ce jeu vidéo. Et ça l'intrigue, et du coup il va chercher à jouer dans ce jeu vidéo, et tout d'un coup il va comme dans ces jeux vidéo, ces jeux de rôle, etc., il va y revenir à plusieurs reprises, et ça va fonctionner un peu comme une espèce de chemin initiatique. On va avoir, je crois qu'il va y retourner 5 fois, non ? C'est ça ? Et à 5 reprises, il va franchir des étapes, il va être amené à comprendre donc progressivement le monde de Trisolaris.
Le monde des trois soleils.
Le monde des trois soleils qui est central par rapport à l'histoire, puisque c'est le monde qui risque de menacer un beau jour... notre monde à nous, l'humanité.
L'humanité, oui.
Donc, ça fonctionne un peu comme un chemin initiatique avec des personnages, et en effet aussi des personnages très célèbres de l'histoire de l'humanité, et entre autres de l'histoire des sciences.
Mais c'est intéressant ce que tu écris par rapport au comme un jeu vidéo. Effectivement, il franchit des paliers, il franchit des niveaux, parce que quand il finit un niveau, et ça, on comprend petit à petit que c'est pas tout le monde en fait qui arrive à franchir ces niveaux, mais lui, il y arrive parce qu'il a les connaissances en physique,
technique et scientifique.
Il franchit des civilisations. En fait, il arrive à la civilisation 137, puis il va arriver plus tard, il intègre la civilisation 184, puis ça finit à la civilisation 192. Donc, il franchit ces paliers-là. Évidemment, jusqu'à la 192, où on comprend que là, ils sont passés à une autre étape dont on va reparler, j'imagine.
Oui, bien sûr. Donc, là, une deuxième histoire. On a Wang Miao qui est amené à enquêter donc sur tous ces suicides, cette vague de suicides ou d'assassinats.
Enfin, c'est pas lui qui enquête, hein, ça va être plutôt le flic qui enquête.
Alors, Shi Qiang,
ouais.
Ouais, un personnage un peu particulier, un peu étonnant. Hein. Mm-hmm. Donc, on va parler un peu de ces personnages. Hein. Mais il enquête pas, mais en même temps, malgré tout, il donne des informations.
Oui.
Ah, il donne des informations, il est en contact.
Lui, il était surtout chargé d'infiltrer la société les frontières de la science. Ouais. C'est son rôle, c'est de les surveiller, savoir ce qu'ils faisaient. Et...
Il est utilisé par Shi Qiang pour enquêter sur cette société.
Cette société-là, oui.
Donc voilà, il y a cette deuxième histoire qui est extrêmement importante. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va petit à petit se révéler, c'est-à-dire en fait ce qui se trame derrière tout ça. Mm-hmm. C'est-à-dire en fait. Eh bien, un complot pour mettre en relation le monde dans lequel nous vivons, le monde des humains, avec un monde extraterrestre, les trisolariens. Mmh. Hein, parce que, en fait, le monde trisolaris dont il est question dans ce jeu vidéo des trois corps, hein, existe vraiment. Petit à petit, Wang Miao va découvrir qu'il existe vraiment. Donc, voilà, il y a trois fils qui s'enchevêtrent. Et on a un peu de mal à comprendre. Et d'ailleurs, il joue beaucoup sur ça, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il y a des moments où Liu Cixin fait dire au personnage, à Wang Miao, entre autres, qu'il doute. Il ne doute pas tant que de la réalité du monde du jeu vidéo, mais il doute beaucoup plus de la réalité du monde dans lequel il se trouve.
On aura les réponses après.
Par la suite. Ouais. C'est pas pour rien.
Oui, avec les fameux intellectrons. Je ne sais pas si on va en parler.
D'accord, mais peut-être. En tout cas, il faut. Ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, on est quand même mis en contact avec des mystères. Mm-hmm. Et ou des énigmes qu'il va falloir résoudre.
Il va falloir dénouer. Ouais.
C'est vrai qu'il y a une énigme qui est particulièrement intéressante, là, qui se développe pendant une bonne partie du récit, c'est l'histoire du compte à rebours, qui est assez fascinante. Wang Miao, au début, il prend des photos, parce que c'est un photographe aussi, un photographe amateur, mais qui est connu quand même, qui a une réputation de très bon photographe, qui fait des expos, etc. Il photographie des paysages essentiellement. Et donc il prend des photos et il s'aperçoit que sur chacune des photos, il y a un espèce de compte à rebours qui a marqué 1082, 2.42, 2.16 par exemple. Ouais. C'est jour, heure, minute. Et sur chaque photo qu'il prend, l'écart qu'il y a sur les photos, ça correspond effectivement à l'écart qu'il y a eu entre la prise d'une photo et de l'autre. Et à chaque fois qu'il essaye plusieurs combinaisons.
Et ce n'est que quand lui fait les photos.
Oui, ce n'est que quand lui fait les photos, oui. Parce que il essaye de faire prendre des photos par sa femme, par son fils, il essaye avec un appareil photo numérique. Et quand c'est lui qui prend une photo, il y a toujours cette espèce de décompte qui continue.
Qui apparaît.
Et il ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Et après, ça passe à un degré supérieur, puisqu'il finit par avoir ce compte à rebours en permanence devant lui, devant
sa
rétine.
Sur sa rétine.
Et il le voit tout le temps, quoi.
Et donc, en fait, ça tient le lecteur en haleine, parce qu'on se dit, il y a un compte à rebours, ça veut dire que le monde va...
Enfin, je ne sais pas si c'est le monde, mais tu te dis qu'au bout de ce compte à rebours, oui, il va bien se passer quelque chose. Une catastrophe ou n'importe quoi.
La mort de Wang Miao.
La mort de Wang Miao, oui, on ne sait pas. C'est intriguant. Puis, d'où il vient ce compte à rebours? Comment il se fixe sur la pellicule? Alors, quand c'est lui qui prend la photo... Quand c'est pas un autre, pourquoi maintenant il l'a sur la rétine? Après, ça va passer même à un stade supérieur, puisqu'ils vont réussir à faire ce compte à rebours en faisant varier le fond diffus cosmologique qui va envoyer en morse le fameux compte à rebours. Là, c'est tout l'univers entier qui lui envoie ce message de compte à rebours. Et donc, vraiment,
l'univers scintille pour lui.
Ouais, l'univers scintille pour lui, ouais, exactement. Et c'est vraiment très intriguant. Bon, on aura la réponse plus tard, mais...
Sur le plan narcissique, c'est quand même impressionnant. Tout l'univers se concentre sur Wang Miao.
Oui, mais en même temps, c'est menaçant, parce que, comme on dit, c'est un compte à rebours. Donc, il va se passer quelque chose, quoi.
Oui, et puis il y a quelque chose qui va s'arrêter.
Oui.
Ne serait-ce que déjà que le compte à rebours. Mais voilà, on peut se poser la question. C'est vrai que le roman, par la suite... Nous le dira, on comprendra par la suite la raison de ce compte à rebours et du clignotement. Hein. Mais En effet, on voit bien que Wang Biao, qui est le personnage central du roman, il est extrêmement angoissé et que, comment on pourrait dire, il cherche en quelque sorte à arrêter ce compte à rebours.
Ah oui, ça, il est pris de panique même. Hein. Il se demande qu'est-ce qui lui arrive. Il veut que ça s'arrête, oui, tout à fait. Ouais.
C'est vrai que l'explication vient assez tard, en fait.
Ah oui, c'est quasiment à la fin. Hein.
Ouais, c'est vers la fin vraiment qu'on comprend tout ce qu'il a vécu à ce moment-là.
C'est ce que nous verrons à la prochaine émission, chers amis. À bientôt.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur ?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie ? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.